Docteur Claude Banis, bonjour.
Bonjour.
Docteur Claude Banis, vous êtes responsable du laboratoire d'hématologie moléculaire au sein de l'EFS.
Oui, depuis l'année dernière, c'est un laboratoire qui s'occupe des globules rouges et d'une série d'études sur tout ce qui se passe au niveau des groupes sanguins.
Alors, docteur Banis, je crois que l'EFS est fier d'une belle réussite technologique.
Oui, parce que c'est une question qui se posait depuis de nombreuses années dans la transfusion. Est-il possible, dans un laboratoire, de créer des globules rouges qui soient intéressants en termes d'analyse? Est-ce qu'il est possible, à certains moments, de se passer de certains banques de sang rares qui sont extrêmement importantes en France? Oui, donc la question était, est-ce qu'il est possible de créer des globules rouges dans un laboratoire et les modifier génétiquement pour qu'ils expriment le groupe sanguin? C'est une question maintenant, au moins, auquel on peut répondre oui, c'est possible.
Alors, docteur Banis, je crois qu'il faut clarifier tout de suite le débat. On n'est pas en train de parler de sang artificiel.
Non, ça c'est une de nos grosses craintes. C'est-à-dire que lorsqu'on commence à parler un petit peu de modification génétique, sang in vitro, laboratoire, il y a tout de suite une espèce d'imagerie de science-fiction qui se met en place où les gens pensent que dans les laboratoires, on est en train de créer du sang qui remplacera le sang des donneurs. Et ça, c'est totalement faux, parce que pour l'instant, technologiquement, c'est totalement impossible. Alors, est-ce que dans 40, 50, 60 ans, ce sera une réalité? Pourquoi pas? Mais en tout cas, pour l'instant, il y a une chose qui est très très claire et qui est peut-être à la limite le seul message qu'on aimerait faire passer. C'est que le don du sang est incontournable et la clé de voûte de toute la machinerie transfusionnelle, et c'est très important pour sauver des gens, pour sauver des vies. Et ces travaux sont des tentatives de faire avancer les connaissances en bordure de toute ce qu'on appelle la chaîne transfusionnelle, mais le don du sang est incontournable.
Alors, docteur Banis, au niveau de ce que l'on peut appeler votre réussite technologique, qu'est-ce qui vous a conduit sur ce chemin?
Alors déjà, quand vous dites votre, moi j'ai envie de toute façon d'associer toutes les personnes qui sont présentes en fait de l'article qui démontre un petit peu ce travail. Donc, parce qu'en fait, c'est une histoire, comme beaucoup de travaux de recherche, c'est une histoire de rencontre. Et il y a eu la rencontre de plusieurs personnes en 2005, donc au sein de ce laboratoire à Marseille. Et déjà Pascal Bailly, qui est un expert international au niveau des molécules qui sont portées par les globules rouges. Jacques Yaroni, actuellement directeur de l'établissement français du sang Alpes-Méditerranée, qui est un expert en transfusion. Sylvie Chapelle et moi-même, qui travaillions depuis quelques années sur le transfert de gènes, et nous avions déjà travaillé sur la modification des cellules hématopoïétiques. Donc le terme vôtre désigne en fait tout un travail et tout un effort d'équipe. Et cet effort d'équipe, il s'est créé un petit peu autour d'une question qui était présente dans la transfusion. Est-ce qu'à un moment donné, on est capable dans un laboratoire de créer des globules rouges, on va dire un petit peu à façon, c'est-à-dire des globules rouges qui expriment les groupes sanguins qui nous intéressent? Donc on s'est attelé à essayer de rassembler des technologies dont nous avions l'expertise et qui préexistaient dans la communauté scientifique. Et ces technologies, c'est le transfert de gènes. C'est-à-dire la capacité, à un moment donné, d'aller modifier le patrimoine génétique d'une cellule. C'est la culture des cellules in vitro. C'est-à-dire, dans un laboratoire, la capacité, en dehors de tout contexte organique, dans une boîte de culture, de générer des globules rouges de manière totalement artificielle. Des petites quantités, mais de les générer un petit peu comme cela se passe dans l'organisme. Et puis, des technologies un tout petit peu plus récentes, qu'on appelle l'interférence ARN, c'est-à-dire des capacités d'aller arrêter certains gènes au sein des cellules. Et en mêlant un petit peu toutes ces technologies, on est arrivé à mettre en place la stratégie suivante. On prend des cellules souches sanguines, cellules souches qui sont présentes dans le sang de cordon ombilical. Ces cellules souches, avec divers produits, diverses hormones, on les met en culture dans le laboratoire et on les met en culture de telle manière à ce qu'elles se dirigent vers la génération de globules rouges. C'est une culture qui dure à peu près une quinzaine de jours, 15 à 20 jours. Et au milieu de cette culture, on réalise une étape de transfert de gènes avec des vecteurs dérivés de HIV. On réalise une étape de transfert de gènes qui permet de modifier le patrimoine génétique de ces cellules souches. Et les gènes qu'on transfère sont des gènes qui sont calibrés, qui sont designés pour aller interférer avec les groupes sanguins. Et on a pris un groupe sanguin modèle. Alors il faut savoir qu'il existe une trentaine de groupes sanguins. Le système ABO, c'est un groupe sanguin. Nous, on en a pris un autre qui s'appelle le système KID, qui est un groupe sanguin extrêmement important au niveau des réactions de compatibilité et d'incompatibilité. Et on a demandé à nos systèmes de transfert de gènes d'aller modifier le patrimoine génétique de la cellule qui devait exprimer le groupe sanguin KID. Et on a obtenu, en bout de course, à la fin de la culture, des globules rouges qui normalement devaient être KID positifs, donc qui exprimaient le groupe sanguin, et ben ces globules rouges étaient devenus KID négatifs. Et ça, c'est un intérêt en transfusion dans le sens où des globules rouges qui n'expriment pas cette molécule KID, donc qui avait été initiée par le patrimoine génétique au départ, ce sont des globules rouges qui sont rares, qu'on a du mal à obtenir tout simplement parce qu'il y a une partie très très faible, mais extrêmement faible de la population qui exprime ce groupe sanguin. Juste pour vous donner un exemple, en France, on connaît un cas. On connaît une personne qui a des globules rouges de type KID négatif. Donc vous imaginez un petit peu la difficulté qu'on a pour obtenir des échantillons de ce type de sang-là. Et ce type de sang, il est extrêmement important pour aller faire tous les tests de compatibilité et d'incompatibilité. Donc le fait, à un moment donné, de pouvoir dire bah, « Oui, avec l'évolution des technologies, on pourra un jour, dans le laboratoire, faire ces cellules qui sont ce qu'on appelle des KID nuls, ces KID négatifs, qu'on pourra les faire dans le laboratoire », ça représente une porte ouverte vers des développements qui peuvent intéresser la transfusion.
Docteur Banis, les applications concrètes sont à l'immédiate ou est-ce qu'il faudra attendre quelques années ?
Alors non, il faut le dire clairement, les applications ne sont pas immédiates. On est dans ce qu'on appelle la preuve de principe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on essaye de voir si on peut passer d'une théorie à une pratique, mais dans un contexte de laboratoire. Alors un contexte de laboratoire, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, un, on utilise des conditions qui ne vont nous générer que des très très petites quantités, et puis on va générer ça dans des conditions entre guillemets de laboratoire qui n'ont rien à voir avec les productions de type industriel, qui sont les productions normées, qui sont absolument nécessaires pour faire des produits qui puissent être utilisés. Mais revenons juste un petit peu sur les problèmes de quantité. Imaginez que dans le laboratoire, quand tout marche bien, nous on arrive à produire une tête d'épingle d'échantillon sanguin. C'est dire si on est, mais à des milliers de kilomètres, des volumes qui sont nécessaires pour avoir une utilisation de type transfusionnel. Alors, je vais être un petit peu clair. L'utilisation de type transfusionnel, qu'est-ce que ça veut dire pour moi ? Dans les tests de la compatibilité et de l'incompatibilité entre le donneur, il faut calibrer nos machines. Et pour calibrer nos machines, calibrer nos expériences, il nous faut ce qu'on appelle des échantillons de référence. C'est-à-dire des échantillons qui possèdent ou qui ne possèdent pas un groupe sanguin pour nous permettre de dire, tiens, la machine réagit comme ça lorsqu'elle a un groupe sanguin positif et elle réagit comme ça lorsqu'elle a un groupe sanguin négatif. S'il y a une application, et je vais être prudent dans les 15-20 ans qui viennent de ce principe qu'on a mis en place avec ce travail, c'est dans ce domaine-là. Donc à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Il faut déjà qu'on soit capable d'augmenter les quantités. Parce que si on imagine l'ensemble des laboratoires de transfusion, il faut bien s'imaginer qu'il y a des millions de tests qui sont faits chaque année dans les établissements de transfusion de l'établissement français du sang au niveau national. Donc il faudrait pouvoir faire des quantités très importantes. Et passer d'une tête d'épingle à une quantité extrêmement importante, ça ne demande pas seulement de ce qu'on appelle mettre à l'échelle, ça demande très souvent d'améliorer les technologies, voire d'en changer. Puis il y a une chose qui est importante à comprendre, c'est que effectivement il y a cette problème de quantité, mais il y a tous les problèmes qui sont associés à l'inhibition ou l'activation des groupes sanguins. Et les technologies qu'on utilise, elles-mêmes sont calibrées aussi pour des petites quantités. Et il va falloir les calibrer pour des quantités extrêmement importantes. Et ça demande des améliorations technologiques qui sont pas simplement le fait d'en faire plus pour que ça marche mieux. Lorsque je pense à ce qui peut se passer dans 15 à 20 ans, j'espère qu'il y aura des améliorations technologiques, des nouvelles technologies qui nous permettront de remplacer certaines, par exemple l'étape de transfert de gènes qu'on utilise actuellement. Nous, ce qu'on a montré à ce niveau-là, c'est vraiment l'existence d'un concept. Oui, il est possible de manipuler génétiquement des cellules pour leur faire modifier le groupe sanguin. Ensuite, pour amener ce concept à une échelle industrielle, je suis sûr qu'il faut du temps et j'espère qu'il y aura des améliorations technologiques de manière à faciliter ce qui n'est pas toujours évident non plus à faire dans un laboratoire.
Qui pourrait être intéressé par cette technologie ?
Alors, c'est un sujet un petit peu difficile dans le sens où on tombe dans une problématique qui est très actuelle, c'est comment arriver à faire de l'argent avec la recherche en biotechnologie. Donc le choix de l'établissement français du sang par rapport à ce travail a été de ne pas poser de brevet. Toutes les technologies qui existent et que nous avons utilisées sont brevetées, ultra brevetées, donc on a un système qui est extrêmement couvert. Donc s'il y a des industriels qui sont intéressés, Je pense qu'il va falloir d'abord faire des études de marché, tout simplement, pour savoir ce que ça peut représenter, non seulement au niveau d'un contexte national, mais au niveau d'un contexte international. On n'a pas été contacté, on n'est pas dans cette optique-là pour l'instant. Et puis, nous sommes mis dans une optique de mise à découvert, entre guillemets, de nos travaux par une publication scientifique. C'est-à-dire que maintenant, ces travaux sont dans le domaine public et n'importe qui peut les utiliser, les modifier, les améliorer pour éventuellement arriver à générer quelque chose qu'on puisse faire rentrer dans la chaîne transfusionnelle comme un test quelconque.
Docteur Banis, vous nous avez parlé de 30 groupes sanguins. Pourquoi est-ce que vous avez travaillé sur le groupe sanguin KIT d'abord ?
Déjà, lorsqu'on travaille en recherche dans un laboratoire, on s'attelle souvent à un modèle. Souvent, simplement une question de quantité de bras, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire à la fois. Et puis aussi, c'est un problème qui est assez simple, c'est lorsqu'on teste une hypothèse, on a intérêt à la tester sur un système qui soit le moins dispersé possible. Donc on a focalisé notre attention sur un groupe sanguin qui est le groupe sanguin KID. Alors juste un petit, j'ouvre une parenthèse sur les groupes sanguins. Il existe 30 groupes sanguins. Alors il y en a un qui est extrêmement connu, c'est le groupe sanguin ABO. Il y en a un autre aussi qui est connu, c'est le groupe sanguin rhésus. Pourquoi ABO est extrêmement connu? Tout simplement parce qu'il a été le premier découvert. Et c'est celui qui donne les réactions d'incompatibilité les plus fortes et les plus violentes au niveau clinique. C'est le groupe sanguin sur lequel on n'a pas le droit de se tromper. Ensuite, derrière ce groupe ABO, il y a 29 autres groupes sanguins qui sont tout à fait connus des transfuseurs, qui sont surveillés un petit peu comme du lait sur le feu et qui sont tout aussi importants qu'ABO. Le groupe sanguin KID, c'est un espèce de petit monde à part dans la mesure où il y a très très peu de personnes qui n'ont pas cette molécule KID à la surface du globule rouge. En plus, il y avait une très grosse expertise de la part du docteur Pascal Bailly sur cette molécule KID. C'est-à-dire qu'on avait quelque part un petit peu tous les tenants aboutissants. On savait qu'on pouvait, sans détruire la cellule, on savait qu'on pouvait tout simplement ne pas avoir l'expression de KID. On avait toute une série d'informations qui rendaient cette approche possible. Donc on est parti sur cette molécule. Alors, il se trouvait qu'en plus, lorsqu'on regarde un petit peu a posteriori, il se trouvait que cette molécule, par exemple, n'est pas présente en quantité extrêmement importante à la surface de globules rouges, donc il est plus facile de l'inhiber. Donc, lorsqu'on regarde un petit peu nos travaux, le choix au préalable et les analyses a posteriori, on est tombé sur la bonne molécule. Mais derrière, effectivement, il en reste 29 autres. Il en reste 29 autres qu'il va falloir analyser, qu'il va falloir confronter par rapport à notre technologie pour en mettant en avant deux nouvelles questions. D'abord la question de la quantité, parce que autant on a certaines molécules qui sont entre guillemets faiblement représentées comme la molécule KID, on a d'autres molécules qui participent à d'autres groupes sanguins qui sont extrêmement représentées, sur lesquelles il y a beaucoup de molécules à la surface du globule rouge. Donc est-ce que notre technologie est assez efficace pour aller éteindre aussi ce groupe sanguin? Et puis on a cette problématique aussi d'essayer de savoir comment arrêter certains groupes sanguins qui ne s'expriment pas par des protéines. Il y a une chose qui est juste une petite information qui éventuellement peut être délicate à comprendre. Lorsqu'on a des groupes sanguins, ça veut dire que ce sont soit des protéines qui sont à la surface de globules rouges, soit des sucres particuliers. Ça veut dire que au sein des cellules sanguines, il y a des mécanismes différents qui amènent ces informations à la surface de la cellule. Nous, notre technologie, on l'a confrontée entre guillemets avec succès, au mécanisme qui mène un groupe sanguin de type protéique à s'exprimer à la surface. Maintenant, il faut qu'on essaye de regarder si notre technologie elle est capable d'aller arrêter de manière efficace des groupes sanguins qui soient représentés par des sucres. Donc on a ces deux problématiques qu'on va essayer de regarder à travers l'ensemble de ces... Alors peut-être pas, c'est toujours la même chose, on ne va pas partir sur tous les groupes sanguins. Pour l'instant, on regarde ABO. Pourquoi ABO? Tout simplement parce que ABO, eh bien en fait, c'est un sucre. La différence entre A et B, ce sont simplement des sucres qui sont différents, qui sont portés par d'autres sucres. Donc, on s'adresse à un autre mécanisme et une autre machinerie à arrêter.
Fin de ces recherches, quelle date?
Mais la fin de ces recherches n'existe pas, monsieur. C'est l'intéressant de toutes ces recherches. C'est-à-dire que, bon, sans plaisanter, effectivement, il y a deux types de recherches. Il y a la recherche type fondamentale qui n'arrête jamais. C'est-à-dire que vous ouvrez une porte, vous avez un couloir devant vous avec des tas d'autres portes. Et chaque fois que vous ouvrez une porte, vous avez un autre couloir. Donc l'idée à un moment donné, c'est d'ouvrir porte sur porte et de faire son chemin en se disant qu'il y a d'autres équipes qui ouvrent d'autres portes à côté. On est dans un cadre de recherche appliquée, c'est-à-dire qu'effectivement, nous aussi, on ouvre une porte, on a un couloir avec des portes à ouvrir. Simplement, on a peut-être l'avantage d'avoir sur la porte certaines informations. Il y a une porte qu'on doit ouvrir, c'est la quantité de cellules rouges. Essayer d'avoir des globules rouges en quantité importante. Une autre porte qu'il faut ouvrir, c'est est-ce qu'on va arriver à casser ces groupes sanguins qui s'expriment par des sucres. Donc, nous, actuellement, on prend cette porte-là, c'est-à-dire essayer de casser ABO, en sachant que c'est simplement pour essayer d'améliorer nos concepts. Et vous vouliez parler de temps, moi je vous dirais, entre 2 et 15-20 ans.
Docteur Vanisse, merci beaucoup.
Je vous remercie.